Azione!
J'aurais un petit mot à dire sur ce film, mais pas maintenant.
Il n'y a vraiment pas de quoi rire, là.
C'est vraiment un avis, ce film.
Vous voyez, c'est tout à fait bouleversé, Philippe.
Cinéma ! Cinéma !
Vous ne trouvez pas ce film formidable ? Moi, si. J'ai eu tellement pitié du malheureux monde.
Madame, je ne n'écrirai rien sur ce film, c'est une merde !
C'est un très beau film, j'en ai rien à foutre, mais c'est un très beau film.
On vit une époque formidable, Michel.
Absolument.
Tous les jours, on en a plein les yeux. T'es là, ouf.
Bonjour, bonsoir à toutes et à tous. Vous écoutez bien le Comptoir du Cinéma, votre émission d'actualité cinématographique uniquement sur Transistor, et plus précisément en ce beau mois de mai, le comptoir du Festival de Cannes, puisque l'événement est couvert par vos chroniqueuses et chroniqueurs préférés. Aujourd'hui, en direct de la Croisette et plus précisément du cinéma de la plage et de la dernière journée du festival, je suis avec Clarisse. Clarisse, bonjour.
Bonjour.
Et Mélusine. Mélusine, bonjour.
Bonjour.
Bonjour à toutes les deux. Comment ça va en cette dernière journée de festival ?
Eh ben, un peu déçu de cette dernière journée à cause de la coupure de courant dont on a été victime, mais sinon ça va, le temps est super beau, c'est juste un peu dommage de ne pas avoir pu voir les derniers films qu'on souhaitait voir.
C'est vrai que pour informer nos auditeurs et auditrices qui ne seraient pas à Cannes, ce qui est, me semble est tout à fait possible, Cannes a été frappé à 10h du matin par une coupure d'électricité générale en fait, qui a touché Cannes et les villes environnantes.
Et même jusqu'à Lyon apparemment.
Ah bah voilà, on me dit dans l'oreillette que c'est jusqu'à Lyon, et ce qui fait qu'en fait d'un coup les séances se sont coupées. Alors au Palais des Festivals, qui est donc l'endroit principal où on projette les films à Cannes, ils ont un générateur autonome, donc ils ont réussi en fait à relancer les projections, mais c'est vrai qu'à la Licorne ou au Cinéum, qui sont des cinémas annexes, ça a été tout bonnement annulé. Donc voilà pour le programme électrique. Mélusine, toi, comment ça va ?
Moi ça va, j'attends avec impatience la cérémonie dans une heure tout pile là.
Dans une heure au moment où on enregistre, c'est vrai qu'on a hâte, et la cérémonie, on va en parler, parce qu'aujourd'hui au programme, émission spéciale, vous l'aurez bien compris, et pas qu'un peu, puisqu'on va parler clôture, bilan et palmarès. Et oui, c'est déjà la fin du comptoir du festival, dernier épisode, et qui dit dernière journée dit récompense. On a tous et toutes pu voir pas mal de films ces derniers jours, des bons et des moins bons, des rejets et des coups de cœur, des séances intenses et des gros dodos. Et c'est pour ça que je vous propose de revenir sur ce 78e Festival de Cannes de façon assez générale. Si vous le voulez bien, on va d'abord revenir sur le festival dans son ensemble, avant de vous donner nos pronostics pour la cérémonie de clôture. Mélusine, je commence par toi. Ton bilan après une semaine de festival, qu'est-ce que t'en retiens ?
C'est un festival qui... je parle surtout pour la sélection officielle, parce que c'est la majorité des films que j'ai pu voir.
La compétition,
parce qu'on ne peut pas tout voir. Donc c'est une compétition qui est très diverse cette année, qui est, beaucoup de gens l'ont dit, mais qui est marque d'une génération nouvelle de réalisateurs et réalisatrices assez jeunes pour la plupart, ou en tout cas en milieu ou début de carrière, et du coup ça crée un panel vraiment de différents films. S'il y a bien quelques points sur lesquels on peut les réunir, c'est peut-être le thème de la famille qui lie quand même beaucoup des films de la compétition, mais aussi beaucoup de films politiques. Ce matin, j'ai rattrapé par exemple Les deux procureurs, qui est un film qui parle des exactions et des tortures sous l'URSS de Staline. On pense au Panahi, on pense plus indirectement à l'agent secret. Voilà, il y a vraiment tout un tas de choses, directement ou indirectement, qui parlent de politique, qui parlent d'État, de nation et de ces exactions. Donc, mais en revanche, en termes des prix, on en parlera, mais il y a des divergences, disons, entre mes coups de cœur et ce que je pense qu'il va avoir des prix.
Non, mais enfin, on aura l'occasion d'y revenir, mais c'est vrai que je pense qu'un des trucs qui caractérise aussi la sélection de cette année, en tout cas en compétition officielle, c'est que c'est une sélection très ouverte, avec beaucoup de bons films, et pas forcément de films qui sortent du lot, même s'il y en a un ou deux dans notre cœur, on en reparlera. Clarisse, toi, comment tu l'as vécu, ce festival de Cannes ?
Je l'ai très bien vécu. J'ai pas vu autant de films dans la compétition officielle que je l'aurais souhaité, je crois.
J'ai vu quelques gros noms en fait que je connaissais avant, donc dont les nouveaux films m'intéressaient, mais j'ai plus apprécié en fait de me tourner aussi vers les plus petites sélections, voilà, Un certain regard ou Cannes Première, où j'ai découvert des plus petits films, mais qui m'ont beaucoup, étonnée et surpris et que j'ai beaucoup aimé. Oui, je pense notamment, à des films comme le film My Father Shadow par exemple, un film nigérian, ou même là un film indien il y a deux jours qui s'appelait Homebound. Et ça m'a fait du bien en fait aussi de juste aller voir les films que je vais pas voir au cinéma d'habitude aussi. Et juste je pense que c'est ça que je retiens plus du festival, plus que les gros noms du cinéma de la compétition officielle.
C'est pareil, c'est encore un truc avec lequel je suis assez d'accord, parce que c'est vrai que bon, nous on s'est surtout focus sur la compétition, mais on a quand même pu faire quelques sympathiques à côté, dont vous avez eu dans les épisodes précédents les chroniques. Mais c'est vrai que ça fait du bien, en fait, des fois, de sortir de ce côté compétitif, de ce côté réception de prix, même si ces sélections annexes, elles ont aussi des prix. Mais d'avoir peut-être aussi, dans des films plus indépendants, qui s'appuient pas forcément sur des stars, d'avoir des films avec une identité plus marquée, plus singulière aussi, des choses peut-être plus violente, plus excessive. On pense, alors on l'a pas vu, mais il a fait beaucoup de bruit sur La Croisette en fin de festival, c'est le Yes de Nadav Lapid, un film israélien, assez intense, assez brûlot anti-Israël en fait, un film clandestin en partie. Donc voilà, c'est aussi les plaisirs de la quinzaine des cinéastes, de la quinzaine des réalisateurs, pardon, de la semaine de la critique, d'un certain regard, de l'acide et des autres sélections. Bah écoutez, je vous propose de passer, pas plus lentement que ça, à nos pronostics et coups de cœur en ce qui concerne la sélection officielle. Donc, bref, Cannes, c'était beau, intense, éprouvant et rigolo, et je vous propose de passer à ce qui peut paraître assez vain et accessoire pour certains, mais qui va cristalliser les débats et capter toute l'attention à coup sûr, j'ai nommé le palmarès. Avant d'attaquer le gros du morceau, je souhaitais mentionner quelques prix décernés avant que l'on enregistre cette émission. La Queer Palm attribuée à La Petite Dernière d'Afsi Herzi, tout à fait justifiée, à mon avis, je pense que Clarisse est d'accord. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Le prix du meilleur film de la semaine de la critique pour le film thaïlandais Un fantôme utile ou Useful Ghost, dont on aura parlé. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Le disque d'or de la meilleure bande originale pour Sirat et Canding Ray, j'espère que je le dis bien. Et enfin, la Palme Dog pour Panda, le chien de The Love That Remains de Linur Palmason, dont on a parlé au deuxième épisode. Et le Grand Prix Canin, donc un peu en deuxième médaille, pour Pipa et Lupita, les deux chiens de Sirat. Et ça fera plaisir à Clarisse. je vous propose de maintenant passer vraiment au palmarès à force de le teaser. Le seul, l'unique, enfin bon, clairement pas, hein, mais bref, celui de la compétition en tout cas, qui mobilise tous les regards et toutes les attentions. On rappelle pour cela le jury, Juliette Binoche en présidente, accompagnée de l'acteur star Jeremy Strong, de l'actrice italienne Alba Rohrwacher, de la réalisatrice Payal Kapadia, d'ailleurs grand prix à Cannes l'année dernière pour le magnifique All We Imagine Is Light, l'actrice Ale Berry, l'autrice Leila Slimani, le réalisateur et documentariste congolais Dieudonné Amadi, le réalisateur mexicain Carlos Regadas, le réalisateur coréen Hong Sang-soo, du beau monde pour pas mal de prix en soi. Ces prix, on va aussi les rappeler, l'interprétation féminine, l'interprétation masculine, le prix du jury, le prix du scénario, le prix de la mise en scène, le grand prix et enfin et bien évidemment la tant convoitée Palme d'Or. Et enfin, pas mal de prix pour pas mal de films. On peut juste rappeler donc les films en compétition officielle au nombre de 22. The Phoenician Scheme de Wes Anderson, Eddington d'Ari Aster, Résurrection de Bigan, Jeune Mère de Jean-Pierre et Luc Dardenne, Alpha de Julia Ducournau, Renoir de Chie Ayakawa, The History of Sound d'Oliver Hermanus, La Petite Dernière de Afsi Herzi, Sirat d'Oliver Laxé, Nouvelle Vague de Richard Linklater, Deux Procureurs de Sergei Loznitsa, Fouri de Mario Martone, L'Agent Secret de Kleber Mendonça Filho, Dossier 137 de Dominique Moll, on y arrive, Un Simple Accident de Jafar Panahi, Die My Love de Lynn Ramsey, The Mastermind de Kelly Reichardt, Woman and Child de Saïd Roustaé, Les Aigles de la République de Tariq Saleh, Sound of Falling de Masha Chilinski, Romeria de Carla Simone et Sentimental Value de Joachim Trier. 22 films au total. On vous a chacun et chacune concocté nos récompenses de cœur et nos pronostics pour chaque prix, alors sans plus tarder, entrons dans le vif du sujet. On va commencer peut-être par les deux prix d'interprétation et par le prix d'interprétation masculine, tant qu'à faire. Clarisse, est-ce que toi, tu pourrais nous donner ton coup de cœur et ton pronostic pour le prix d'interprétation masculine ?
Alors, je crois que mon coup de cœur comme mon pronostic vont se tourner vers Tahar Rahim pour Alpha. Parce que voilà, il n'y avait rien à dire sur son jeu, c'était excellent. Et il incarnait à merveille ce personnage torturé et fantomatique.
Vas-y.
Non, voilà, c'était à peu près tout. Non, je voulais juste te dire avant de lancer les pronostics que parmi les 22 films cités auparavant, il y en a plusieurs dont je crois qu'on est tous d'accord pour dire qu'ils sont complètement en dessous en fait du reste de la sélection. Enfin, il y a quelques noms en fait qui apparaîtront même pas dans nos pronostics. Je pense à des films comme The Story of Sound, même Jeune Mère que j'ai pu voir ce matin.
Die My Love,
tout ça, c'est des films dont on voit plus trop l'intérêt dans la compétition officielle.
C'est-à-dire qu'en plus, 22 films pour au total. 6 ou 7 prix, si je dis pas de bêtises, de toute façon, on n'aurait pas pu tous les citer.
Oui, c'est sûr. Et c'est surtout autour des mêmes qu'on va se retrouver aussi. Ça qui est intéressant. Mais voilà, donc t'as Rahim dans mes pronostics.
Bah écoute, moi je vais te suivre au moins pour mon compte cœur, parce que effectivement, je pense que si je devais décerner un prix d'interprétation masculine cette année, ce serait à Tahar Rahim pour Alpha. Comme toi, je trouve sa prestation à la fois d'une justesse son jeu de regard dont j'ai déjà parlé dans l'épisode qu'on a consacré à Alpha, mais aussi, il est d'une présence magnifiquement mise en scène par Ducournau, une présence corporelle, intense, physique.
La performance aussi, d'avoir changé son corps.
Même le changement de corps, même si je me passe pas non plus que là-dessus, mais ça joue aussi. Je trouve que c'est un truc assez complet, et le plus fou, c'est qu'en fait, ce soit même pas le rôle principal entre guillemets du film, et qu'il ait cette espèce de surprésence là. Donc juste pour ça, Tahar Rahim, ce serait mon coup de cœur, mais je pense que le jury cannois va décerner ce prix d'interprétation masculine de façon un peu surprise. C'est une de mes hot takes à l'acteur Fares Fares pour le film Les Aigles de la République de Tariq Saleh, un acteur qui fait une performance assez magnifique. Il porte le film de Tariq Saleh qui est pas non plus si formidable que ça par ailleurs, qui se laisse regarder tout à fait, qui est sympathique et tout, mais qui est vraiment porté par son acteur. Et je pense que le jury cannois peut se laisser séduire par cette performance là et puis ça me paraît jouable. Mélusine, toi,
je vais aller vite parce qu'il faut qu'on avance. Je dirais que mon prix coup de cœur, ce serait aussi Tahar Rahim, parce qu'il a vraiment fait une performance digne d'un acteur studio, c'est-à-dire une préparation, une mise en jambe et une présence, comme vous dites, fantomatique. Et en revanche, je pense que le jury peut voir peut-être quelque chose chez Josh O'Connor dans The Mastermind, parce qu'il porte le film quand même avec son regard, avec son jeu assez subtil. Je pense que le film ne m'a pas séduite pour autant, mais en tout cas, son jeu, je pense, pourrait intéresser le jury.
Très très bien, le prix d'interprétation féminine maintenant, écoutez, moi je vais commencer. Pour ma part, je le donnerai à Renate Rensve, pour ma prononciation, je ne parle pas, c'est le suédois ? Le danois, je ne sais
Norvégien.
Plus. Norvégien, autant pour moi, aucun des deux. Renate Rensve, donc, que je trouvais absolument magnifique et touchante et parfaite dans le film de Joachim Trier, The Sentimental Value. Mais là aussi, je pense que je ne suis pas d'accord avec le jury. Et deuxième hot take, je pense que le jury va faire un peu comme l'année dernière et distribuer un prix d'interprétation collectif, en tout cas pour le prix d'interprétation féminine, et récompenser le travail des quatre actrices principales de Sound of Falling de Masha Chilinsky, à savoir Anna Hecht, Lena Urzendowski, Leni Geiseler et Léa Drinda. Voilà, c'est ma petite prédiction. Mélusine ?
J'ai pas mal hésité au moment de faire les pronostics, et effectivement, je pense qu'il y a des chances que, à la fois, le cast de Sound of Falling remporte un prix collectif. Je pense que c'est pas déconnant, étant donné effectivement Emilia Pérez l'année dernière. Mais en même temps, je suis partagée. Je trouve que Renata Rensve a vraiment une performance incroyable et très belle, très subtile, et qui va de pair avec le film qui est Sentimental Value. Donc, je te rejoins complètement, encore une fois.
Et moi, je me suis noté qu'en coup de cœur, j'avais Nadia Meliti pour La Petite Dernière, mais en fait, en y repensant, ce serait plus potentiellement un espoir féminin au César l'année prochaine, ce genre de prix-là. Mais je vous rejoins sur le pronostic pour les actrices de Sound of Falling, qui, selon les critiques, ont l'air plutôt bien parties pour un prix collectif.
Et du coup, en coup de cœur, tu gardes Nadia Meliti ?
Oui, je la garde, voilà, j'ai bien
c'est
aimé
parfait.
Ça.
Mais je te suis totalement, c'est une récompense qui serait amplement méritée. Eh bien écoutez, je vous propose de passer au prix qui récompense les films dans leur ensemble avec le premier, à savoir le prix du jury, qui est en quelque sorte non pas forcément un prix de consolation, mais le coup de cœur du jury cannois. Alors, votre coup de cœur à vous et votre pronostic, quels sont-ils ?
Alors pour ma part, ils se rejoignent. Je pense que un simple accident a de grandes chances de remporter un prix du jury parce que il catalyse en fait un film très simple hein, qui se présente comme simple, dont l'intrigue est vraiment qui va droit au but, voilà, qui est vraiment cette histoire des circonstances qui peuvent mener à une petite tragédie, on va dire, une petite tragédie de famille, qui est portée par quelques acteurs, qui a une mise en scène avec une économie de mise en scène et de plan qui est remarquable et qui est peut-être un trop petit objet quelque part pour remporter une palme d'or, quoique. Et donc pour moi ça peut être totalement un prix du jury. Mais voire plus, hein, après, ouais. On ne sait pas.
Bah, j'avoue qu'en fait, à la fois, bon, vous verrez dans quelques minutes que moi, je l'ai plus haut dans mes classements. Mais qu'effectivement, ce ne serait pas illogique qu'ils reçoivent le prix du jury, parce qu'on sait qu'il y a des proximités entre Panahi et Binoche, qu'elle a soutenu Panahi ouvertement, et que Panahi, en fait, coche toutes les cases, on va dire, pour être grandement récompensée cette année à Cannes. Et qu'en même temps, en fait, on voit depuis quelques années que Cannes rechigne un peu aussi à forcément donner ses plus belles récompenses au cinéma iranien, par circonstance ou par goût. Et qu'en fait, encore une fois, ça pourrait être un espèce de snob et qu'en fait, Panahi pourrait se retrouver avec le prix de la mise en le prix du jury, pardon, qu'est-ce que je raconte, histoire de se dire qu'on lui a donné quelque chose, mais pas non plus un trop gros prix. Clarisse, toi.
Alors moi dans mes coups de cœur, à partir de là je m'estirate un peu partout parce que ça a été mon film chouchou de la compétition officielle,
bien,
même si voilà, réalistiquement c'est pas forcément les prix qu'il va remporter. Mais donc voilà, je me suis noté Sirate, mais de ce que j'ai entendu de Sentimental Value, je pense que ça pourrait être aussi un bon prix du jury. Je crois que c'est un film qui a eu la standing ovation la plus longue depuis longtemps.
Oui, 19 donc, minutes de standing ovation.
Voilà, 19 minutes de standing ovation, donc ce serait pas déconnant que ça obtienne ce prix.
Bah écoutez, moi je vais suivre Clarisse sur le coup de cœur en prix du jury, parce que mon prix du jury à moi c'est aussi Sirate d'Oliver Laxey que j'ai découvert pas plus tard que ce matin et qui m'a fait un grand effet. Et en pronostic, bah écoutez, moi je vois bien en fait le jury cannois se décider d'enfin donner un prix à Wes Anderson. Même si c'est pas forcément son film qui aurait dû être récompensé en priorité, mais je le vois bien, le jury lui attribuer le prix du jury, bah justement un peu en prix de consolation entre guillemets et en coup de cœur qu'on saurait pas trop où mettre à côté. On passe maintenant au prix du scénario. Écoutez, moi je vais enchaîner le prix du scénario. Il est le même pour moi et pour le jury, en coup de cœur et en pronostic. Je vois le Kleber Mendonça filio, L'agent secret, décrocher le prix du scénario parce que je trouve que c'est un film qui est extrêmement bien mis en scène. C'est un film qui pourrait concourir dans quasiment toutes les cases de ce palmarès. Mais voilà, je pense qu'il va se retrouver un peu à la place du con, entre guillemets, même si c'est un très beau prix que le prix du scénario, et qu'il va recevoir ce prix-là pour un scénario très bien construit, et qui, je trouve, fait le sel du film dans sa manière d'alterner, notamment, entre passé et présent. Mélusine.
Je te rejoins pour le choix de cœur du Mendonça filio. Je pense que c'est un film que j'ai beaucoup apprécié, qui m'a pas fait un grand effet, parce qu'il y a aussi beaucoup de choses qui sont très classiques, notamment en termes de mise en scène dessus, je trouve, hein. Après, ce qui est vraiment fort dans ce film, c'est la construction et c'est la mélange des tonalités, le mélange des genres, pardon, à savoir l'incursion dans le film de genre, l'incursion dans le film historique, l'incursion dans le film vraiment réaliste, quasi documentaire sur la fin. Donc tout un tas de choses qui, en plus, accompagnent une intrigue très bien ficelée d'un film long mais bien construit en fait. Donc pour moi, ça vaut totalement le prix du scénario. En revanche, il y a des possibilités que le prix du scénario aille peut-être, et c'est peut-être un peu osé, mais à Sirate, parce que de ce que j'en sais, c'est un film à rebondissement et donc qui a une narration qui pourrait entraîner aussi le jury à lui donner un prix, faute de lui donner mieux en fait, justement.
Ah, ce serait étonnant et audacieux de la part du jury de donner le prix du scénario à Syrat, mais ce serait une jolie surprise. Et toi, Clarisse ?
Oui, ce que je me suis noté en coup de cœur, bah, Syrat pour le scénario, parce que je trouve que c'est quand même des dialogues bien construits, et puis c'est un film haletant, mais je verrais aussi, pourquoi pas, Dossier 137 remporter ce prix du scénario, dans le sens où, comme La Nuit du 12, il y a quelque chose... Dominique Moll écrit très bien, ça se tient, c'est un scénario qui est solide, et je vois pas pourquoi il pourrait ne pas repartir sans prix.
C'est vrai qu'on en a moins parlé parce qu'il est passé en début de festival, mais le Dossier 137 de Dominique Moll, il pourrait aussi truster un petit peu et puis jouer les troubles faits dans ce palmarès de cette compétition officielle. Après le prix du scénario, ou même en complément de ce dernier, c'est le dernier prix spécialisé, le prix de la mise en scène. Moi, le prix de la mise en scène, mon choix de cœur irait au Sentimental Value de Joachim Trier, en essayant de ne pas multiplier les prix, on va dire, par film, parce que je trouve que, sous les atours d'une réalisation assez sobre, sans non plus grands effets, etc., je trouve que c'est dans sa mise en scène que le Joachim Trier est super fort, en plus de ses acteurs et actrices. Je trouve que c'est typiquement ce qui le distingue d'un film complètement raté, ou banal en tout cas, comme History of Sound. Et je pense que ça serait assez chouette et vachement pertinent de lui donner un prix de la mise en scène. Mais voilà, compte tenu, et on y reviendra aussi, de ce que pourrait donner le palmarès du jury cette année, je pense que le jury va attribuer ce prix de la mise en scène à Résurrection de Bigan, qui est très, très démonstratif, très spectaculaire dans sa mise en scène, etc. Et je pense que ça aura suffisamment tapé dans l'œil de la fin du festival pour que le jury lui remette, enfin j'espère aussi que le jury lui remette au moins ce prix de la mise en scène. Mélusine.
Prix du cœur et prix réaliste, on va dire, à Bigan pour Résurrection. C'est de loin la plus grande claque cinématographique qu'on ait reçue de ce festival et personnellement depuis un moment.
Ouais.
Je pense depuis All That Jazz que j'avais rattrapé en DVD. Bref, mise en scène parce que, Wes Anderson a des velléités de mise en scène, mais il se fait un petit peu écraser par tout simplement à la fois la candeur et la virtuosité de Bigan, de ses plans séquences, de ses changements d'ambiance, de son éclairage, enfin de tout.
Qui ne se fait pas écraser par Bigan sur cette compétition,
voilà.
C'est une bonne question.
Je m'arrêterai là.
Et toi, Clarisse ?
Exactement, je vous ai suivi avec le prix du cœur et le pronostic pour Résurrection. En effet, surtout pour cette dernière partie de plan séquence extrêmement virtuose, et le fait, en fait, d'avoir construit une épopée aussi grande et aussi conséquente, qui mérite aussi d'avoir ce prix, aussi qui permettrait de lui redonner un peu de force aussi pour quand il sortira en salle, parce que c'est pas un film facile à aborder, donc ça lui permettrait aussi de trouver et d'aller chercher son public.
C'est vrai.
Fort bien. Et écoutez, il nous reste les deux principaux prix à décerner, à savoir le Grand Prix et la Palme d'Or. On va commencer par le Grand Prix. Clarisse, quel est ton Grand Prix ?
Mon Grand Prix du cœur, ce sera toujours Syrat, mais de ce que j'en ai entendu, Un Simple Accident pourrait recevoir un peu cette médaille d'argent pour sa portée politique. Après, je ne l'ai pas vu, donc je me tairai à ce sujet-là.
Ouais, non, mais en fait, tu fais bien de le dire, parce que, enfin, même si la compétition est très ouverte et qu'en fait, il y a beaucoup de films qui pourraient remporter, enfin, qui cochent un peu les cases de tous les prix, en fait, c'est vrai que le Panaïs, c'est un peu l'exemple type de ce phénomène-là. Mélusine.
Oui, alors pour moi, le prix du cœur, c'est certainement un Sentimental Value, parce que pour moi, c'est le deuxième coup de cœur que j'ai eu après ma palme de cœur, on en parlera après. En mise en scène, en réalité justement, en, je dirais même organicité, c'est-à-dire représenter vraiment la vie d'une famille pendant 1h45, le jeu des acteurs, vraiment tout dans ce film m'a fait l'aimer. Et par contre, je vous rejoindrai peut-être sur le fait que le Panaï peut remporter le Grand Prix et avoir une sorte de médaille d'argent pour le symbole politique, pour récompenser ce réalisateur qui est quand même là depuis un long moment par rapport à d'autres. Pour toutes ces raisons-là, il y a des chances que le Panaï l'emporte.
Bah écoute, moi je vais inverser ton pronostic, parce que je pense que c'est le Joachim Trier que le jury va récompenser du Grand Prix. Je pense que Trier le mérite complètement, il coche là aussi beaucoup de cases, c'est un des gros favoris de la compétition, il a tout pour être aimable et aimé, si je peux dire. et je pense que oui, le jury va lui remettre le Grand Prix, même si moi, à titre personnel, le Grand Prix, je l'aurais remis à Alpha de Julia Ducournau. Envers et contre tout, je n'arrêterai jamais de défendre ce film jusqu'à la mort.
C'est vrai que c'est un très beau film, et personnellement, dans mon palmarès, je n'ai pas réussi à lui donner une place, alors qu'il m'a beaucoup marqué.
Voilà, c'est méchant. Ouais. On vous retiendra, hein, toutes les deux. Hein. Eh bien, écoutez, on a remis le Grand Prix. Trêve de suspense, il nous reste un prix à remettre qui n'est d'autre que la Palme d'Or, le prix suprême, le prix des prix si l'on peut dire. Mélusine, quelle est ta Palme d'Or ?
Sans surprise, ma Palme d'Or de cœur, c'est Résurrection de Bigan. C'est, comme je disais, le film le plus spectaculaire, celui qui on en a parlé, j'espère, lors d'une émission, qui a surpassé en fait mes attentes, qui rend un hommage très mature en fait au cinéma, tout en renouvelant beaucoup de choses, tout en proposant beaucoup de choses. Et c'est un film monde, et c'est vrai que j'aime beaucoup les petits objets aussi, j'aime beaucoup les films plus restreints, hein, comme le Trier, comme le Panahi, tout à fait, mais celui-ci vraiment dépasse les attentes, et c'est vraiment une expérience de cinéma, une expérience de la salle aussi, et je pense que c'est aussi ça que le festival récompense, c'est l'expérience de la salle, et là c'est vraiment le cas. En revanche, je pense que c'est l'agent secret qui peut remporter la palme cette année. C'est l'année du Brésil en France, bon, petite coïncidence. Et c'est un film qui est très bien construit, qui a une valeur à la fois auteuriste et populaire. Et donc en cela, qui peut vraiment réunir, concilier, je pense, les jurés. Et aussi recevoir un accueil très favorable de son public. Donc je pense que pour toutes ces raisons-là, et les raisons que j'ai évoquées aussi en lui mettant mon prix du scénario, il peut totalement remporter la Palme d'Or cette année, même si voilà, encore une fois, je ne suis pas parole de l'évangile du tout.
Non, mais moi je suis d'accord, en ce qui concerne le Mendonça Filho en tout cas, dans le sens où c'est à la fois je pense un potentiel très grand film populaire et en même temps un très grand film d'auteur aussi. C'est un peu le film somme de Kleber Mendonça Filho qui tourne pas mal depuis 15 ans. Il arrive à une grande forme, un truc abouti en fait en fiction, et puis à propos du Brésil, de son Brésil, de Recife, et puis juste le fait qu'il ait la palme, en fait je pense que ça le boosterait lui aussi en termes de succès public, ce serait chouette. Clarisse, ta palme?
Mais moi je continue à défendre toujours mon bébé Sirat, mais je vais essayer de le défendre un peu mieux là en deux minutes, mais en fait je le trouve que ce serait... Ça irait dans la continuité des palmes des années précédentes, dans le sens un film efficace, en fait, qui marche. Et il n'y a rien à redire, en fait. Il n'y a pas de défaut particulier. Est-ce que c'est une expérience... est-ce que ça bouleverse le monde du cinéma? Peut-être pas. Mais en même temps, ça marche extrêmement bien. Le jeu d'acteur est saisissant, la musique aussi. Et pour ça, je pense que ce ne serait pas non plus complètement irréaliste qu'il la remporte. Après, effectivement, c'est moins niche que d'autres films de la compétition. Mais en même temps, je trouve que c'est un film réussi et parfait. Et en ce sens-là, je lui donne...
Et en partie français.
Et en partie français, voilà. Il faut le rappeler. Écoutez, moi, je ne vais pas tergiverser. Je pense que le jury va attribuer cette 78e Palme d'Or à Jafar Panahi pour un accident simple. Je pense qu'il coche toutes les cases.
Un simple accident, pardon.
Vous n'avez rien entendu. Je pense qu'il coche toutes les cases, que c'est un très bon film, un très grand film en puissance qui vieillit très bien dans ma mémoire à moi. Je pense que le jury a tout pour l'aimer. On l'a dit, Juliette Binoche est particulièrement proche de Jafar Panahi. Ça peut jouer aussi, on sait jamais. Le public cannois, la critique à Cannes l'a beaucoup encensé. C'est un des rares à avoir fait l'unanimité générale.
C'est pas un film de 3 heures.
C'est pas un film de 3 heures. Il a pas ce côté un peu, en fait, fait tellement de trucs qui peut se casser la gueule que peuvent avoir d'autres. Je pense que, en fait, si on fait parler la logique dans ma tête, en tout cas, le Jafar Panahi, c'est celui à qui le jury va donner cette 78e Palme d'Or. Seulement, si ça ne tenait qu'à moi, si c'était à moi de donner cette Palme d'Or, et comme Mélusine, je le donnerais à Bigan et à son Résurrection, qui est le coup de tonnerre de cette fin de festival dont on aura parlé en large et qui nous a simplement bouleversé, stupéfait, fasciné. En fait, on est resté sous le choc pendant bien des heures après cette séance qui s'est terminée quand même sous le coup d'une heure du matin quasiment. Et en fait, toutes les salles étaient quoi, même si certains ont pu y voir un peu de too much, un peu de vanité. Globalement, la plupart du public, de la critique, grosso modo, encenser le film. Donc voilà, Bigan, Palme d'Or 2025 pour Mélusine et pour moi-même, Sirat pour Clarisse. Vous avez le palmarès de vos chroniqueurs et chroniqueuses de Transistor. Eh bien écoutez, c'est tout pour les pronostics de la rédaction. Voilà pour la conclusion conclusive et concluante de ce 78e Festival de Cannes, le premier suivi par Transistor pour le comptoir du cinéma, et pas le dernier j'espère. Merci à toutes et à tous, merci à tous les, à toutes les deux, Clarisse et Mélusine.
Merci à
pour
toi.
Ce
merci
nouveau Aubry. Et ultime numéro du comptoir du cinéma cette saison et ce nouvel et ultime épisode du comptoir du Festival de Cannes. On se retrouve très vite, c'est-à-dire à la rentrée en septembre, dans un nouvel épisode pour aborder tout simplement la suite de l'actualité cinématographique. Comme d'habitude, l'émission est et sera disponible sur transistor.fr et sur toutes vos plateformes de podcast préférées. D'ici là, portez-vous bien, partagez-nous et si le cœur vous en dit de nous rejoindre, surtout n'hésitez pas. Bonne soirée, bonne journée à toutes et à tous et à bientôt j'espère. Vive le cinéma, vive Cannes et vive Transistor.